Méditer se révéla un exercice compliqué, ce qui expliquait certainement pourquoi Didi ne s'y livrait jamais. S'installer dans une position confortable était toute une opération. La plupart des employés du service décidèrent de s'asseoir par terre, les pros dans des positions du lotus plus ou moins fantaisistes, les moins convertis négligemment affalés dos au mur. Il semblait important d'avoir de l'espace. Les gens choisissaient des endroits où ils pourraient s'isoler. Même Greg et Daniel, arrivés en retard, n'étaient pas restés ensemble. Greg s'était mis dans le couloir, tandis que Daniel s'était placé à proximité de Didi. La jeune infirmière jeta un regard vers la policière, ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis se ravisa brusquement. Elle ferma les yeux et se tourna vers le centre de la salle commune où Lightfoot dirigeait la méditation d'une voix sourde et mélodieuse. Le chaman était assis sur une table, une bouteille de thé vert glacé à portée de main, un poignet sur chaque genou, les doigts vers le haut. Il parlait d'une voix ferme, avec des inflexions marquées. Didi lui trouvait toujours l'air fatigué. Cela dit, il était plus de minuit. Son équipe et elle étaient tout aussi claquées. Ce qui faisait de cette séance un amusant divertissement de fin de soirée. Karen, la surveillante, était la plus proche des locaux administratifs. Elle avait retiré ses lunettes pour l'occasion. Une armoire à glace, répondant au nom de Ed, croyait Didi, était assise non loin d'elle. La jeune éducatrice aux cheveux noirs et courts, Sissy, Cécile, se trouvait à la gauche de Ed. Venaient ensuite trois autres éducateurs et une autre infirmière, Janet. Le seul à ne pas participer était Tyrone, chargé des contrôles. Toutes les 5 minutes, il devait noter où se trouvait chaque enfant ou membre du personnel soignant. Étant donné qu'enfant et soignant étaient calmes pour le moment, cette tâche lui permettait de rester au milieu du couloir, face à Didi. Elle se fit la réflexion qu'ils étaient comme deux serre-livres, les seules personnes debout quand tout le monde était couché. La bande au grand complet, se dit-elle, très curieuse de savoir ce qui allait se passer. J'inspire lentement, les guidait Lightfoot. Je sens que j'aspire l'air profondément dans mes poumons. Je le fais entrer par mes doigts de pied. Je le fais monter dans tout mon corps et toutes mes cellules se contractent. Chaque pore de mon corps inspire lentement un afflux d'oxygène frais. J'inspire encore sur un temps long, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et j'expire. Je pousse l'air sur un temps plus court, 1, 2, 3, 4, 5. Didi, adossé au mur, bras croisés sur la poitrine, s'aperçut que le rythme de sa respiration se calquait sur la cadence hypnotique imprimée par Lightfoot. Elle se reprit, se força à une brève expiration, et eut un vertige. Alex était parti chercher des pizzas. La cellule de crise avait encore une longue nuit devant elle. Entre le début de soirée mouvementée des enfants et maintenant la réunion de synthèse, les enquêteurs n'avaient pas encore eu la possibilité d'interroger le personnel. Karen avait promis de commencer à leur envoyer des éducateurs un par un dès la fin de la séance de Lightfoot. À supposer naturellement que le service reste sous contrôle. Vu la nouvelle salve de cris et de coups que Didi avait entendue à peine 10 minutes plus tôt, elle n'était pas exagérément optimiste. Il allait falloir que Lightfoot se montre à la hauteur de ses prétentions, ou alors elle ne voyait pas comment les enfants ou le personnel allaient survivre à cette nuit. Lightfoot transpirait. Didi voyait des perles d'humidité se former sur sa lèvre supérieure. Alors qu'il leur demandait de respirer lentement et régulièrement, sa propre poitrine était animée de mouvements rapides et une main tremblait sur son genou. La violence de son effort pour conjurer toutes ses énergies négatives, pour trouver la lumière au milieu des ténèbres. Seigneur, voilà qu'elle se mettait à parler comme lui. « Je veux me libérer de mes tensions », dit Lightfoot d'une voix forcée. En face de lui, Karen ouvrit un œil et regarda le guérisseur d'un air inquiet. « Je me concentre sur mes doigts de pied. Je sens la tension en dessous de chaque pied. » Les petits muscles contractés le long de la plante du pied, les tendons qui montent sur le talon, les tout petits muscles qui s'accrochent à chaque doigt de pied, qui les enfoncent dans la moquette. Je prends cette tension, je la relâche, je la repousse. Je sens mes doigts de pied se déplier et mes pieds reposent, détendus, sur la moquette. Mes talons sont bien souples, chaque pied détendu. Je sens la lumière. Mes pieds qui se réchauffent, une clarté blanche qui grandit sous mon talon. Je me concentre dessus. Je sens qu'elle se diffuse, monte à mes chevilles, à mes mollets, au creux de mes genoux. La lumière blanche avait du chemin à faire, beaucoup de muscles à détendre, beaucoup de parties du corps à illuminer. Didi voyait un peu partout dans la pièce des soignants s'adonner à l'exercice. Même Daniel semblait plus reposé, le front plus lisse. Ses poignets fins mollement posés sur ses genoux. Lightfoot, en revanche, avait une sale tête. Il transpirait abondamment et des taches sombres fleurissaient sur sa chemise Armani jaune pâle. Il profitait de la petite pause entre chaque groupe de muscles illuminés pour s'envoyer discrètement un grand coup de thé glacé. Il demandait maintenant au groupe de détendre l'estomac et la bouteille de thé glacé était pratiquement vide. Didier avait l'impression que le guérisseur n'allait pas tenir le coup. Pouvait-on demander un temps mort, une petite pause en pleine séance de méditation? Ou bien est-ce que ça romprait le charme, comme de jeter un œil à son beeper pendant qu'on fait l'amour? Sous ses yeux, il grimaça, se frotta la poitrine, grimaça de nouveau. Un muscle de son épaule gauche exécuta une curieuse petite danse et se relâcha. Lightfoot prit une autre gorgée, serra fort les paupières et sembla rasséréné. Je me concentre sur la lumière. La clarté chaude de la lumière de l'amour. Je la sens qui gonfle ma cage thoracique, qui emplit mes poumons. Et je la pousse vers le haut. Je la pousse dans les cavités de mon cœur. L'amour est dans mon cœur. L'amour palpite dans mes veines. Il repousse les énergies négatives. Il remplit mes bras et mes jambes d'une grande apesanteur. La lumière est amour. L'amour est lumière. J'en suis inondée. Je le sens qui bat dans ma poitrine. Je le sens qui palpite sous ma peau. Mes bras ont envie de se lever d'eux-mêmes. Ils sont illuminés d'amour, légers comme l'air grâce à cette joie. Et de fait, aux quatre coins de la pièce, plusieurs paires de bras se levèrent. Pas ceux de Daniel, nota Didi, ni ceux de Karen. La surveillante avait renoncé à méditer pour observer Lightfoot. « Chaleur !» proférait-il. « Amour, lumière, feu, joie. Je me défais de tout jugement. Je comprends que je suis responsable de tout acte charnel et je pardonne mes péchés. Je pardonne aux autres. Je suis un être de lumière. J'en appelle à cette lumière. J'en appelle à l'amour dans cette pièce. » Un spasme soudain crispa son visage, découvrit ses dents. Il réprima cette grimace, persévéra. « Je cherche l'amour de mes amis, de mes compagnons, de mes collègues. » Sa voix se brisa à nouveau. Ses deux épaules tressaillirent, son bras gauche rebondit sur son genou. Puis ses yeux s'ouvrirent d'un seul coup et, abandonnant tout faux-semblant, il leva une main pour abriter son visage de la lumière des plafonniers. Cette rupture de rythme attira l'attention des uns et des autres. Daniel ouvrit les yeux, Greg aussi. Ils observaient Lightfoot indécis. Karen, déjà debout, remettait ses lunettes sur son nez. « Andrew ?» demanda-t-elle alors que le corps de celui-ci était secoué d'un nouveau spasme. Didi s'écarta du mur, il se passait décidément quelque chose d'anormal. Lightfoot leva la tête vers le plafond, ferma les yeux et se contracta comme s'il livrait une sorte de combat intérieur. « J'en appelle à la lumière, » tonna-t-il. « Je suis un être d'amour. Je suis rempli de joie, de paix et de félicité. Je me libère du négatif. Je renonce à tout jugement. Je sens l'amour de mes amis et de ceux qui m'entourent. Leur amour me donne la force d'écarter les ténèbres de ce bâtiment. Il n'y aura rien de négatif. Pas de colère, pas de douleur. Nous sommes unis dans cette lumière. Nous remplissons cette pièce d'amour, nous la gardons pleine d'amour. J'en appelle à la lumière, la lumière, la lumière !» Sa voix qui montait se brisa. Il se prit le visage entre les mains. Dans la seconde qui suivit, le guérisseur bascula en avant sur la table et dégringola au sol, où il fut pris de violentes convulsions.
« La lumière, la lumière !» hurlait-il. « Mes yeux brûlent, mes yeux brûlent, mes yeux, mes yeux !»
« ACR !» vociféra Karen en se précipitant vers l'homme à terre. « Appelez le rez-de-chaussée, un chariot de Réa, vite !» Déjà agenouillée à côté de Lightfoot, elle essayait d'immobiliser sa tête entre ses mains alors qu'il battait des bras et des jambes qui la frappaient. « Bâtonnet !» demanda Karen en s'efforçant de lui ouvrir une paupière, de contrôler ses constantes vitales.
« Me touchez pas, me touchez pas, me touchez pas, ça brûle !»
Les soignants sortirent enfin de leur paralysie. Les infirmières, Danielle et Janet, filèrent tout droit chercher le matériel médical. Greg attrapa un téléphone pendant que les autres éducateurs écartaient les tables pour faire de la place. Le cou et le dos de Lightfoot se cambraient. Ses muscles roulaient avec rigidité sous la gaine de sa peau bronzée. Karen réussit enfin à ouvrir sa paupière. Son œil n'était pas révulsé comme s'y attendait Didi. Au contraire, Lightfoot regardait Karen droit dans les yeux, parfaitement conscient.
« La lumière !»
gémit-il. Elle lâcha sa paupière. Il gémit à nouveau, de soulagement cette fois-ci. Danielle et Janet étaient revenus avec les fournitures. Karen prit un bâtonnet d'esquimau et le planta dans la bouche de Lightfoot, qui voulut immédiatement recracher.
« Me touchez pas !»«
Serviette !» ordonna Karen en le faisant basculer sur le côté. « Vite, sur les yeux !» Cécile éteignit les plafonniers. On peut travailler à la lumière du couloir. Cécile obéit et plongea la salle commune dans la pénombre pendant qu'Ed fonçait dans le couloir chercher une serviette. À l'instant où les lumières du plafond s'éteignirent, Lightfoot parut se détendre.
« Mal, je peux pas arrêter, »
marmonnait-il.
« En moi, je sens froid, 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 amer, brûle. Dois lutter. Lumière blanche, lumière blanche, lumière blanche. » Fatiguée, si fatiguée, doit trouver la lumière.
Ed revint avec une pile de serviettes. Ils en plièrent une et la posèrent sur le haut du visage de Lightfoot pour lui protéger les yeux. Didi en prit une deuxième et parvint, non sans mal, à arracher les doigts de Lightfoot du poignet de Karen pour qu'il les referme sur une serviette roulée. « Parlez-moi, Andrew, » demanda Karen d'une voix forte. « Restez avec nous. Où avez-vous mal ?»
Jambes, bras, dos, corps, muscles, mal, mal, mal.
Il se contorsionna sur le sol.
Trop de bruit, trop de lumière. Stop, 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 stop.
La lumière vous fait mal ? Interrogea Karen.
Brûle, les yeux.
Et le bruit ? Intervint Didi.
Ah ! Ah !
Gémit-il en portant une main à son oreille. Les portes s'ouvrirent à toute volée. Deux urgentistes entrèrent au pas de charge, guidés par l'agent de sécurité. Un regard vers la silhouette convulsée de Lightfoot et ils piquèrent droit sur lui. « Symptômes ?» demanda le premier à Karen. « Ça a commencé il y a 3 minutes. Convulsion, hypersensibilité à la lumière et au bruit, pas de perte de connaissance, conscient de son état. Pouls, 210. » Le médecin s'étonna. « Il y avait de quoi, » pensa Didi. « Avec un pouls pareil, Lightfoot aurait dû être en train de gravir l'Everest au pas de course. » « Il a déjà fait des crises ?» demanda l'urgentiste en essayant de contrôler les constantes vitales. « On ne sait pas, » répondit Karen, mais Lightfoot intervint.
« Non, pas de crise, spasme, spasme, musculaire. »
L'urgentiste regarda le visage de Lightfoot sous sa serviette, puis de nouveau Karen qui haussa les épaules.
« Les ténèbres, » gémit Lightfoot. « Je suis envahie de ténèbres. Froid, si froid, ça brûle. »
Il se releva, fit signe à son coéquipier, ils s'apprêtèrent à entrer en action. « Une seconde !» les interpella Didi. Un cas dont elle avait eu connaissance. L'étrange lucidité de Lightfoot au milieu de ce qui ressemblait à une crise d'épilepsie. Elle s'approcha de la table et flaira sa bouteille de thé glacé. Cela avait un goût de thé, de plante, de citron, et en dessous un léger arrière-goût amer. « Il faut faire analyser ça tout de suite !» dit-elle au médecin. « Mais je dirais que c'est de la strychnine. »« De la mort au rat ?» demanda Greg depuis le couloir. « Dans sa bouteille ?» sourcilla Karen. Ils se regardèrent les uns les autres, puis regardèrent le corps de Lightfoot agité de secousses. « Les symptômes correspondent, » fit remarquer Didier à l'urgentiste. « Hypersensibilité, spasme musculaire, lucidité initiale. »«
Ouais, maintenant que vous le dites... »
Bon ben, autant se manier alors, parce que l'étape suivante, c'est l'arrêt respiratoire. Allez mon vieux, restez avec nous. Tant qu'à se faire empoisonner, le mieux c'est encore à l'hôpital. Avec l'aide des éducateurs, ils installèrent Lightfoot sur le chariot. La cabine arriva avec un ding, les portes s'ouvrirent et Alex sortit avec une tour de boîte de pizza fumante. Il regarda les médecins, le corps de Lightfoot sanglé sur le brancard, le personnel en état de choc qui tous le dévisageait. « Qu'est-ce qui est arrivé au guérisseur ?»« En voilà une bonne question. répondit Didi. Karen et ses petits copains étaient peut-être des as de la médecine, mais ce n'était quand même pas pour rien que Didi touchait un gros chèque en fin de mois. « Où Lightfoot a-t-il pris la bouteille ?» demanda-t-elle à l'instant où les urgentistes disparaissaient dans l'ascenseur.
« Je ne sais pas. Je pense... J'imagine qu'il est venu avec. »
Karen observa son personnel qui tournait en rond dans la salle commune mal éclairée, donnait des coups de pied dans les serviettes, regardait fixement les meubles déplacés à la hâte. Plusieurs se frottaient les bras comme pour lutter contre le froid. « Sûr qu'il n'y a pas de thé glacé dans la cuisine ?»«
Non, nous ne le stockons pas là. »«
La cafétéria du rez-de-chaussée ?» Karen secoua la tête d'un air hésitant. Daniel prit la parole.
« Le thé que buvait Andrew, la marque Koala, est un de ses produits bio 100% naturels pour sauver la planète. Je crois pas qu'on en vende par ici. »«
C'est déjà ça de gagner, » grommela Didi.
Fermer la cafétéria d'un hôpital et appeler le centre antipoison ne faisait pas partie des choses qu'elle avait envie de faire en priorité là tout de suite. « Est-ce que Lightfoot est arrivé avec quelque chose ? Une boîte à sandwich ? Un porte-document ? »
Didi eut l'image fugace d'une lanière en cuir marron sur l'épaule d'Andrew lorsqu'Alex et elle l'avaient vue pour la première fois devant les ascenseurs.
« Peut-être une besace, » dit-elle d'un air songeur.
« Je la veux. »
Karen la conduit docilement dans les locaux administratifs où Lightfoot avait déposé une sacoche en cuir marron. Didi l'ouvrit prestement et y trouva un yaourt à la grecque et un sachet de graines de tournesol. Elle prit ses denrées pour les faire analyser et retourna dans la salle commune où elle s'aperçut que chacun observait ses collègues avec inquiétude en guettant les symptômes d'une crise imminente.
Quelqu'un d'autre a pris du thé glacé ? Demanda-t-elle.
Un à un, ils firent signe que non.
Qui a mangé ici ce soir ?
Quatre personnes levèrent lentement la main. Didi remarqua que Greg et Daniel n'en faisaient pas partie.
À quelle heure ?
Les éducateurs avaient pris leur service à 19h et fait des pauses casse-croûte entre 21h et 21h30.
Bonne nouvelle, les rassura Didi, la strychnine est un des poisons dont l'action est la plus rapide.
Les symptômes apparaissent dans les 5 minutes qui suivent l'ingestion. Donc si vous êtes debout maintenant, il y a des chances que ce soit encore le cas tout à l'heure. Le temps d'action correspond à ce qu'on a vu ce soir. Lightfoot a ouvert sa bouteille, pris quelques gorgées, commencé la méditation, bu encore un peu et au bout de, je dirais, 8 minutes... Il a été pris de violentes convulsions, compléta Karen d'une voix éteinte. Tout le monde regarda la table sur laquelle Lightfoot s'était assis.
La strychnine n'a pas d'odeur, expliqua Didi au soignant angoissé, mais un goût amer.
Donc si vous tombez sur quelque chose qui a un goût bizarre, mettez-le tout de suite de côté. Je vais appeler le labo pour qu'ils envoient quelqu'un analyser l'eau et tout ce qui se trouve dans la cuisine, mais ça va prendre un moment.
Quand est-ce que les enfants sont censés manger ?
Peu avant le petit déjeuner. « Mais certains prennent un encas au milieu de la nuit, » répondit Karen.
Didi réfléchit.
« Tenez-vous-en à des boissons et des aliments pré-emballés, barres de céréales, ce genre de choses. Du moment que l'emballage est intact, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça vous paraît cohérent ?»
Tout le monde hocha la tête sans mot dire.
« Bon, qui a vu Lightfoot avec la bouteille ?»
La fille aux cheveux courts leva la main. Cécile.
« J'ai été une des premières à m'asseoir. » Andrew n'était pas encore là, mais la bouteille se trouvait déjà sur la table, comme s'il venait de l'ouvrir et qu'il était parti chercher quelque chose, ou jeter le bouchon.
« Le bouchon !» approuva Didi en allant à la poubelle.
Pile sur le dessus, une capsule blanche estampillée Koala Ice Tea.
Didi enfila des gants et la récupéra. Une capsule métallique pour fermer une bouteille en verre. Pas le genre d'emballage dont on pouvait facilement frelater le contenu, avec une seringue par exemple.
Non.
Capsule enlevée, poison versé. Cela dit, il était possible que le produit ait été empoisonné au stade de l'entrepôt, dans le cadre d'une vaste opération terroriste. Ou que le petit roquet de Lightfoot, pris d'un désir de vengeance, ait corsé le thé de son maître à domicile.
Mais Didi était prête à parier que la boisson caractéristique de Lightfoot avait été trafiquée pendant qu'elle se trouvait à la vue de tous dans la salle commune.
« Combien de temps s'est-il absenté ? » demanda-t-elle à Cécile.
« Je sais pas... » Pas longtemps, quelques minutes, 5 peut-être. Les gens arrivaient, je faisais pas vraiment attention.
Didi regarda autour d'elle.
Un à un, tous baissèrent les yeux.
J'étais avec un enfant, expliqua Greg à mi-voix. Il jeta un regard vers Daniel.
Elle était avec moi, nous sommes arrivés en retard.
On fournissait des alibis,
voilà qui plaisait à Didi.
Et dire qu'on avait cru que le milieu était déjà perturbé avant.
Je comprends pas, dit Karen.
Pourquoi empoisonner Andrew? Enfin, toute cette histoire, ça n'a aucun sens.
Bonne question, dit Didi. Peut-être parce que vous l'aviez fait venir pour rétablir la situation dans le service, ramener le calme. Si on suit cette logique, peut-être que quelqu'un n'a pas envie que le calme revienne. Cette personne veut que vous soyez tous sur les nerfs, à cran, en train de courir après des enfants qui explosent dans tous les sens. Lightfoot est empoisonné, vous êtes tous angoissés comme jamais. Mission accomplie. Karen en restait bouche bée. C'est de la folie furieuse. 12 morts et un blessé, tous en relation avec ce service. Vous avez raison, on ne peut pas trouver franchement pire comme folie furieuse.
Ça suffit, nous ne sommes pas ce genre de personnes.
Quel genre de personnes? S'enquit Didi avec intérêt.
Des assassins, des anges de la mort.
Des soignants qui se persuadent que leurs patients, en l'occurrence des enfants perturbés, seraient mieux dans l'autre monde? Explicita Didi.
Karen lui jeta un regard noir.
Mon équipe et moi-même, nous faisons tout pour guérir ces enfants, pas leur faire du mal.
Les gens changent.
Non, s'emporta Karen, vous ne comprenez pas. Nous sommes un service de pédopsychiatrie. Nous sommes aussi soudés que tout service d'urgence. Et nous réussissons précisément parce que nous nous connaissons par cœur et que nous avons une confiance aveugle les uns dans les autres. Si n'importe lequel de mes collègues me donnait une boisson maintenant, je me fierais à lui et je boirais sans hésiter.
Didi attendit de voir si quelqu'un prenait Karen au mot. Personne ne broncha.
Ça prouve peut-être seulement que c'est vous la coupable, dit Didi.
J'ai été la première à lui porter secours.
Peut-être parce que vous saviez déjà qu'il allait se produire un incident grave.
Comment osez-vous? Je suis infirmière.
Ouais, l'interrompit Didi. Vous l'avez déjà dit. Reste que quelqu'un a mis du poison dans le thé glacé de Lightfoot, et je dirais que ce quelqu'un se trouve ici même. Sauf à croire que les énergies négatives ont vu d'un seul coup des mains leur pousser.
Personne ne pipa mot, ce que Didi considéra comme un accord tacite. Elle continua vivement.
Bon, j'ai comme l'impression que la situation s'aggrave au lieu de s'arranger ici. Ce qui veut dire qu'il est temps pour mon équipe d'en mettre un bon coup avec la vôtre. Et que personne ne sera autorisé à quitter cet étage avant d'avoir personnellement reçu le feu vert de quelqu'un de chez moi. Pas de petit tour à la cafétéria, pas de pause cigarette de 5 minutes. On s'est compris? Alors c'est parti mon kiki. Et notre premier candidat sera...
Didi regarda autour d'elle et repéra une cible de choix.
Le prof de gym. Vous me suivez ?